Voltaire, dictionnaire philosophique des songes. Mais comment tous les sens étant morts dans le sommeil, y en a-t-il un énième qui est vivant? Comment nos yeux ne voyant plus, nos oreilles n'entendant rien, voyez-vous cependant, entendez-vous dans vos rêves? Le chien est à la chasse en songe. Il aboie, il suit sa proie, il est à la curée. Le poète fait des vers en dormant. Le mathématicien voit des figures. Le métaphysicien raisonne bien ou mal. On en a des exemples frappants. Sont ces seuls organes de la machine qui agissent? Est-ce l'âme qui, soustraite à l'empire des sens, jouit de tous ses droits en liberté? Si les organes seuls produisent les rêves de la nuit, pourquoi ne produiront-ils pas seuls aussi les idées du jour? Si l'âme pure, tranquille dans le repos des sens, agissant par elle-même, est l'unique cause, le sujet unique de toutes les idées que vous avez en dormant, pourquoi toutes ces idées sont-elles presque toujours irrégulières, déraisonnables, incohérentes? Quoi? C'est dans le temps où cette âme est le moins troublée qu'il y a le plus de troubles dans toutes ces migrations. Elle est en liberté, elle est folle. Mais si elle était née avec ses idées métaphysiques, comme l'ont dit tant d'écrivains qui rêvaient les yeux ouverts, ces idées pures et lumineuses de l'être, de l'infini, de tous les premiers principes, devraient se réveiller en elle avec la plus grande énergie quand son corps est endormi. On ne serait jamais bon philosophe qu'en songe. Quelque système que vous embrassiez, quelques vains efforts que vous fassiez pour vous prouver que la mémoire remue votre cerveau et que votre cerveau remue votre âme, il faut que vous conveniez que toutes vos idées vous viennent dans le sommeil sans vous et malgré vous. Votre volonté, il n'y a aucune part. Il est donc certain que vous pouvez penser 7 ou 8 heures de suite sans avoir la moindre envie de penser et sans même être sûr que vous pensez. Pensez cela et tâchez de deviner ce que c'est que le composé de l'animal. Les songes ont toujours été un grand objet de superstition. Rien n'était plus normal, naturel. Un homme vivement touché de la maladie de sa maîtresse songe qu'il la voit mourante. Elle meurt le lendemain. Donc les dieux lui ont prédit sa mort. Un général d'armée rêve qu'il gagne une bataille. Il la gagne en effet. Les dieux l'ont averti qu'il serait vainqueur. On ne tient compte que des rêves qui ont été accomplis. On oublie les autres. Les songes font une grande partie de l'histoire ancienne, aussi bien que les oracles. La Vulgate traduit ainsi la fin du verset 26 du chapitre 19 du Lévitique. Vous n'observerez point les songes. Mais le mot « songe » n'est point dans l'hébreu. Et il serait assez étrange qu'on réprouvât l'observation des songes dans le même livre où il est dit que Joseph devint le bienfaiteur de l'Égypte et de sa famille pour avoir expliqué 3 songes. L'explication des rêves était une chose si commune qu'on ne se bornait pas à cette intelligence. Il fallait encore deviner quelquefois ce qu'un autre homme avait rêvé. Nabuchodonosor ayant oublié un songe qu'il avait fait, ordonna à ses mages de le deviner et les menaça de mort s'il n'en venait pas à bout. Mais le juif Daniel, qui était de l'école des mages, leur sauva la vie en devinant quel était le songe du roi et en l'interprétant. Oh, cette histoire et beaucoup d'autres pourraient servir à prouver que la loi des Juifs ne défendait pas l'onéiromancie, c'est-à-dire la source des songes.